Le journal Loïc Barrière. La France qualifiée pour les quarts de finale du mondial de football. Les Bleus ont battu la Pologne 3-1. Un beau doublé de Kylian Mbappé après un premier but d'Olivier Giroud, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. En Iran, le procureur général annonce le démantèlement de la police des mœurs. Cette police avait arrêté Mahsa Amini, dont la mort en détention a provoqué une vague de contestations. Entretien avec l'écrivaine franco-iranienne Maral Kianpour. Selon la France, un sommet avec les voisins de l'Irak aura lieu en Jordanie avant la fin de l'année. Le principe de cette réunion a été décidé après un entretien entre le président Macron et le premier ministre irakien. 200 jeunes migrants veulent que leur statut de mineur isolé soit reconnu par la justice. Vendredi, ils ont manifesté devant le Conseil d'État. Ils dorment depuis des mois dans la rue à Paris. Entretien avec Yann Manzi de l'association Utopia 56. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Farah Khodja pour son livre « Récits d'Algérie », une série de témoignages, notamment de Chibani, sur la colonisation et l'indépendance de l'Algérie, mais aussi sur leur vie en France, extrait dans ce journal. Un match décisif pour les Bleus qui se sont qualifiés en quart de finale cet après-midi au Qatar. L'équipe de France de football a battu la Pologne 3-1. Olivier Giroud a ouvert le score à la 44e minute. Puis Kylian Mbappé a sécurisé le match avec un deuxième but à la 74e minute. Kylian Mbappé qui a marqué le troisième but à 24 ans. C'est son 9e but en Coupe du Monde. À noter que les Polonais ont marqué un but lors du temps additionnel. Cet après-midi, Olivier Giroud a lui inscrit son 52e but en équipe de France, dépassant ainsi le record de Thierry Henry. Cela suffira-t-il pour stopper la contestation en Iran? 3 mois après la mort de Mahsa Amini, le procureur général iranien Mohamed Jafar Montazeri annonce le démantèlement de la police des mœurs. C'est cette police qui avait arrêté la jeune femme décédée en détention. Entretien avec Maral Kianpour, écrivaine franco-iranienne.
Cette police des mœurs, c'est une police qui est venue dans la suite de la révolution islamique. Donc à l'époque, l'ayatollah Khomeini a rédigé une nouvelle constitution, du coup en 79, et a créé plusieurs polices en fait, qui seraient à la fois des polices politiques et à la fois des polices religieuses. Donc par exemple, alors il n'y a pas que la police des mœurs, il y a aussi les pasdaran, qui sont donc une police politique qui était censée à l'époque en fait protéger le régime, donc le nouveau régime des mollahs, contre toute contestation, qu'elle soit intérieure ou extérieure au régime. Et cette police des mœurs est également un outil en fait de contrôle, en fait, de censure, et qui veille en fait au bon habillement des gens, aux bonnes coutumes. Par exemple, on interdit aux gens de se tenir la main dans la rue. Il y a différentes choses comme ça. Il y a un strict code vestimentaire qui est à tenir également pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Les hommes doivent par exemple porter des chemises à manches longues. Donc il y a différentes choses de ce point de vue-là, mais c'est quelque chose effectivement qui a été créé suite à l'arrivée des mollahs au pouvoir en 79.
Et aujourd'hui, chez les manifestants, c'est la police des mœurs qui est pointée du doigt d'abord?
Alors, il faut savoir effectivement que la jeune Mahsa Amini qui a été tuée, effectivement, avait été embarquée par la police des mœurs. Donc, tout vient un petit peu de là. En fait, elle a été tuée pour un foulard mal porté. Mais malgré tout, ce que les manifestants réclament va bien au-delà maintenant de la nation, de l'islam et de l'État. Alors, j'ai appris effectivement que le procureur général de Téhéran avait annoncé l'abolition de cette police des mœurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas vraiment une décision judiciaire. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur pour le moment. En plus, même si cette police des mœurs s'était dissoute, le port du voile reste pour le moment obligatoire. Et puis, il y a toujours des exécutions, des arrestations. La répression est toujours aussi féroce. Donc, pour l'instant, dans les faits, en fait, ça change pas grand-chose dans le quotidien des gens. Sachant qu'en fait, dans les faits, en Iran, depuis plusieurs semaines, les femmes ne portent plus vraiment le voile. Donc, de toute façon, il n'y a plus moyen d'arrêter toutes les femmes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, qu'elles soient kurdes, azéries ou balouches. De toute façon, elles ne le portent plus. Donc, en réalité, dans les faits, de toute façon, il n'y a plus vraiment de police des mœurs, puisque de toute façon, les femmes ne respectent plus le strict code vestimentaire islamique.
Quand vous dites que les femmes ne respectent plus ce code islamique, il s'agit d'une minorité ou bien vous avez l'impression que c'est un mouvement beaucoup plus vaste ?
Alors, peut-être que c'est plus au niveau, c'est plus peut-être générationnel, parce que c'est vrai que les femmes dont j'ai vu les vidéos, dont j'ai vu les photos et dont mes parents me parlent sont plutôt des femmes jeunes. Mais il y a aussi des vidéos de femmes plus âgées qui retirent leur voile, et que ça soit effectivement dans les grandes villes ou dans les provinces plus éloignées. Du coup, effectivement, c'est un mouvement qui s'étend en contestation effectivement à toutes ces personnes qui ont été arrêtées et qui ont été également exécutées. Hein.
Alors, le gouvernement iranien envisage une réforme de la loi sur l'obligation de porter le voile pour les femmes. Pour l'instant, ça n'est pas clair. Le pouvoir pourrait choisir, par exemple, des amendes plutôt que des peines de prison pour les contrevenantes.
Oui, alors ça peut être une solution, mais en fait, il faut savoir aussi que la semaine prochaine s'annonce assez explosive en Iran parce qu'il y a de grandes manifestations étudiantes qui sont prévues dans tout le pays. Et également 3 jours de grève nationale les 5, 6 et 7 décembre prochains. Ça doit être le 14, 15 et 16 du mois Hazar du calendrier iranien. Donc sans doute que le gouvernement essaye peut-être aussi de faire des effets d'annonce pour essayer de désamorcer cette semaine explosive qui arrive. Donc il y a peut-être cette explication au niveau du fait que ça soit annoncé aujourd'hui qu'il y aurait cette abolition de la police des mœurs. Donc il faut savoir aussi que peut-être c'est pour essayer de calmer, on va dire, les manifestants dans l'optique de cette semaine qui s'annonce explosive.
Avez-vous le sentiment que le soutien international à ces Iraniennes compte beaucoup dans le mouvement de protestation ?
Oui, alors c'est bien sûr un effet plus psychologique que matériel, parce qu'on ne peut pas combattre avec eux sur place là-bas. Mais effectivement, de savoir que partout dans le monde, il y a des manifestations régulières, parce que là, aujourd'hui même à Paris, il y a encore de nouvelles manifestations en soutien au peuple iranien. Partout à San Francisco, dans toutes les villes du monde, il y a également des différentes choses qui sont faites, des fresques qui sont peintes, des expositions, des manifestations, différentes choses qui sont, même au Qatar en ce moment, donc avec la Coupe du Monde, effectivement, il y a des activistes qui essayent de faire passer certains messages de la façon dont ils peuvent. Et du coup, effectivement, ça compte beaucoup pour le moral, en fait, des Iraniens et des Iraniennes qui combattent actuellement, parce qu'ils se sentent soutenus. Donc voilà, comme c'est un conflit maintenant qui s'annonce pour durer, donc voilà, qui se met dans la durée. Du coup, le moral compte beaucoup. Donc voilà, c'est comme quand vous faites la guerre. Donc il y a effectivement le combat que vous menez chaque jour. Et puis, pour pouvoir combattre dans la durée, il faut pouvoir tenir moralement. Et c'est là, effectivement, que les manifestations dans le monde entier comptent beaucoup. Oui, tout à fait.
Maral Kiampour, son roman « Aux portes du paradis » est publié aux éditions Éric Bonnier. 4 Iraniens ont été exécutés en Iran après leur condamnation à mort pour coopération avec Israël. Arrêtés en mai dernier, ils étaient poursuivis notamment pour des vols, des destructions de biens personnels et publics et des enlèvements. C'est l'Élysée qui l'annonce après un entretien entre le président Emmanuel Macron et le premier ministre irakien. Un sommet régional aura lieu d'ici la fin de l'année en Jordanie. Ce sommet doit réunir l'Irak, les pays voisins et la France. Parmi les sujets abordés, la question de l'Iran et de la Turquie. Une telle réunion s'était tenue à Bagdad en août 2021. L'aviation israélienne a mené des frappes aériennes cette nuit contre la bande de Gaza. L'armée a ciblé 5 sites du Hamas après un tir de roquette hier soir vers le territoire israélien. En France, 200 jeunes migrants qui affirment être mineurs ont manifesté vendredi devant le Conseil d'État. À ce jour, ils n'ont pas été reconnus comme mineurs non accompagnés. La justice doit se prononcer sur leur âge. Ils sont notamment soutenus par l'association Utopia 56. On écoute son fondateur, Yann Manzi.
Ces jeunes qui sont avec nous depuis 5 mois et demi, en périphérie de Paris, cachés sous un pont à côté de Ivry, sont des mineurs qui, en première instance de leur évaluation de reconnaissance de minorité, n'ont pas été reconnus mineurs. En parallèle, nous avons, avec ces jeunes, porté un recours devant les juges des enfants, Et depuis ce recours devant le juge des enfants, l'État laisse à l'abandon tous ces jeunes qui ont des droits, hein, normalement, ce recours devrait être suspensif de la décision de la première évaluation. Et ces jeunes sont laissés totalement à l'abandon sur les trottoirs de Paris. Bien sûr, ça se passe à Paris, mais ça se passe au niveau national. C'est tout simplement, ni plus ni moins, qu'un abandon des jeunes exilés qui arrivent sur nos territoires.
Et aujourd'hui, vous demandez quoi à l'exécutif ?
Une prise en charge et surtout que s'applique la Convention des droits de l'enfant et la présomption de minorité. Tout simplement que le droit s'applique et que la France qui a signé la Convention sur les droits de l'enfant, l'applique tout simplement et mette ces jeunes à l'abri et leur donne la possibilité d'aller à l'école, d'être pris en charge comme tous les autres jeunes français ou européens. Tout simplement que le droit s'applique, c'est tout ce qu'on demande.
Parce que la minorité, le fait de ne pas être majeur, comment cela est-il déterminé ?
Alors c'est une évaluation que nous dénonçons depuis des années, qui sont faites par les départements. À Paris, c'est la mairie de Paris qui mandate des associations pour faire ces évaluations. À Paris, c'est la Croix-Rouge. Dans d'autres départements parisiens, c'est d'autres associations. La Croix-Rouge et la protection civile. Et tout simplement, derrière, ils vont passer un entretien qui dure entre 30 et 40 minutes. Qui est totalement à charge et qu'à 70 à 80% des enfants qui ressortent de là-dedans ne seront pas évalués mineurs. Donc en fait, on jette des centaines et des milliers d'enfants au niveau national sur les trottoirs de nos villes, avec bien sûr le discours nauséabond de notre ministre de l'Intérieur qui derrière va dire « Les mineurs exilés sont la délinquance de demain ». C'est Monsieur Darmanin qui fabrique, ni plus ni moins, cette délinquance.
D'où viennent ces personnes dont vous demandez la prise en charge, ces personnes notamment installées devant le Conseil d'État ?
Alors c'est des jeunes mineurs qui viennent d'Afghanistan, on a quelques Soudanais, on a des Somaliens, des Maliens, des personnes qui viennent de Côte d'Ivoire. Donc en fait on a toute une palette de jeunes qui ont fui la misère, la guerre ou les dérèglements climatiques et qui arrivent sur notre sol pour essayer de se créer un futur. Nous demandons simplement à l'État qui abandonne ces populations. On les suit depuis 5 mois et demi sous un pont avec des tentes, avec rien du tout si ce n'est une aide associative ou interassociative. Donc on demande simplement, en se mettant là, on demande à l'État d'agir, parce que bien sûr, depuis 5 mois et demi, on a des contacts avec la préfecture et les différents organismes, et personne ne nous répond. Donc en se mettant là, nous visibilisons ces invisibles et ces jeunes, qui sont vraiment tous très jeunes, et quoi qu'il arrive, c'est ce que nous disons, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, qu'est-ce qu'on fait en France à laisser des milliers de jeunes dans nos rues ? Sans aucun cadrage et sans aucune éducation.
Ce sont des jeunes isolés. Lorsque vous discutez avec ces personnes, qu'est-ce qu'elles vous disent le plus fréquemment ?
Elles trouvent ça super violent, en fait. Hein. Quand elles arrivent en France, souvent, elles imaginent que la prise en charge va arriver. Et c'est indirectement ce message que passe notre gouvernement à toutes ces populations, qu'ils soient mineurs ou non, l'accueil par le trottoir. En France, c'est développé, et en Europe, c'est développé une forteresse qui va faire en sorte que toutes ces personnes exilées, mineures ou non mineures, vont passer par un accueil très compliqué, une errance dans cette Europe avec un message très précis. Regardez comment on vous accueille, ne venez plus. C'est ni plus ni moins que l'appel d'air du Front National lancé il y a 35 ans par Jean-Marie Le Pen, qui fait aujourd'hui gouvernance dans nos pays et qui s'applique à grand coup de renfort et surtout à grand coup de non-prise en charge de ces populations qui sont totalement laissées à l'abandon sur les trottoirs de nos villes.
Yann Manzi, fondateur d'Utopia 56, au micro de François-Xavier de Calonne. Alors que l'épidémie de Covid reprend en France, le ministre de la Santé François Braun a lancé un appel solennel à la vaccination. Faut-il obliger les Français à porter à nouveau un masque dans les lieux publics ? Le ministre répond que son bras ne tremblera pas s'il faut prendre une telle décision, réclamée notamment par l'Académie de médecine. Enfin, à 19h, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Farah Khodja pour son livre publié aux éditions Face Cachée, Récits d'Algérie, témoignage de nos aînés, de la colonisation à l'indépendance, extrait de cette émission.
Le projet est né d'une discussion très banale avec ma mère, à l'âge de 19 ans, où elle m'a appris en fait, qu'elle n'avait jamais connu son oncle parce qu'il a été porté disparu pendant la guerre d'Algérie. Et à ce moment-là, c'est la première fois qu'on me parle du lien que je pouvais avoir avec la guerre d'indépendance algérienne, que ce soit familial et temporel. Parce que donc, c'est à ce moment-là que je prends vraiment conscience que mon grand-père, avec qui j'ai grandi, a perdu son grand-frère et qu'il n'a jamais pu faire son deuil. Et donc là, ça m'a beaucoup marquée parce que bah, j'ai 19 ans et je réalise qu'on m'en a jamais parlé, que ce soit dans la sphère familiale, privée, mais également scolaire et même plus largement culturelle, au cinéma, enfin dans des musiques ou quoi. Je l'ai pas retrouvé non plus dans les livres que je pouvais lire à l'époque. Et donc là, j'entreprends une démarche qui est de collecter en fait les récits qui pouvaient s'offrir à moi, parce que très vite, ma mère me dit que c'est urgent parce que ces personnes qui ont vécu la guerre d'indépendance se font vieilles aujourd'hui. Et puis on n'a que quelques années pour collecter leurs récits.
Alors le livre s'ouvre sur le témoignage de votre grand-père, Lajjal Kadraoui. Il vit à Décines-Charpieu, dans la région lyonnaise. Et il a fini par vous parler à vous et à votre mère. Et vous écrivez « Chacun de ces mots est précieux ».
Oui, totalement, parce que donc, ce que je disais, c'est que mon grand-père ne m'a jamais parlé de la guerre d'indépendance et même plus largement de la colonisation, c'est pas lui qui m'en parlait. Et je me suis, donc à l'âge de 19 ans, je me suis beaucoup questionnée sur les raisons un peu de son silence. Aujourd'hui, j'ai presque 25 ans et j'ai compris en ces années-là, enfin en ces quelques années, que en fait, c'était un non-sujet pour lui. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait me parler des douleurs du passé alors que je suis jeune et que j'ai la vie devant moi et... il a accepté, là, je lui ai même pas demandé, enfin, il y a quelques mois, il m'a attendu avec justement quelques photos, et puis il nous a livré des bouts de ses récits, même s'il nous a pas tout raconté. C'était hyper précieux, parce que forcément, il est très très pudique. Je pense que c'est des silences qu'il faut que nous, en tant que jeunes, qu'il faut qu'on questionne peut-être, et comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est un non-sujet pour beaucoup, parce que c'est pas forcément un refus d'en parler, mais c'est juste une volonté de nous préserver. Enfin, je pense que c'est une forme de résilience, en fait, que nous-mêmes, on doit comprendre et accepter, questionner. C'est ce que je dis beaucoup, c'est qu'en fait, j'ai compris que mon identité résultait du passé colonial français. Et forcément, ça nourrit une envie de questionner ce passé, de le comprendre, d'en comprendre les conséquences, ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et puis aussi, de rendre justice un peu à toutes ces vies qu'on n'entend pas, qu'on ne met pas forcément en lumière. Les faire figurer dans un format aussi noble qu'un livre aujourd'hui, c'est une manière, je pense, de les mettre en avant et de leur rendre justice.
Farah Khodja, elle est l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient à 19h pour Récits d'Algérie, un livre publié aux éditions Face Cachée. Cette édition est terminée. Dans quelques instants, le journal en arabe de Mazen Hamoud. Excellente soirée à tous.